Bonjour à toutes et à tous. Nous rejoindre pour l'émission La parole est à vous, consacrée aujourd'hui pour la Ligue des droits de l'homme de Remiremont et la région, avec Christiane, avec Michel, avec toute l'équipe, voilà.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, messieurs.
Alors, Michel nous a préparé donc l'émission, voilà, avec Christiane. Alors, je ne reçois pas la parole, bien entendu.
Ben, je crois que... Enfin, je crois. C'est pas que je crois, c'est sûr. L'émission d'aujourd'hui va porter sur Pinard Selleck, qui est venu à Épinal il n'y a pas longtemps, hein, Michel, qui a fait une conférence.
Oui, le 16 avril, hein, donc voilà. Soir au Temple à Épinal. Hein, invité par la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et une association qui s'appelle l'ACAT qui œuvre contre la torture en France et dans le monde.
Ah oui. Voilà, donc une dame quand même qui a un bagage énorme de... En fait, elle est militante, elle est humaniste, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant à étudier et à connaître. Hein.
Oui, ben c'est quelqu'un de, bon, qui est turc et qui a eu beaucoup de soucis avec la Turquie et qui est depuis 2011 en France parce qu'elle était réfugiée du fait des soucis qu'elle avait, c'est-à-dire plus que des soucis, puisqu'elle avait été condamnée à la réclusion à perpétuité en Turquie. Et donc, elle est venue en France déjà pour ses travaux, parce que c'est une universitaire. Hein, elle a passé sa thèse de doctorat en France. Et donc, elle est restée en France suite à ces problèmes-là. Et elle a obtenu la nationalité française en 2017. Donc, actuellement, elle a la double nationalité turque et française. Et heureusement, parce qu'actuellement, c'est pour ça qu'elle avait été invitée à Épinal, parce que le gouvernement turc, enfin l'État turc, après X condamnations et acquittements pour autant, il recommence à lui refaire un procès, et comme elle n'est pas là, en Turquie en tout cas, donc il y a un mandat d'amnistie internationale qui la menace, et donc un nouveau procès qui était en cours au mois d'avril 2026, hein, qui était reporté à l'automne. Donc, il y a toujours ce couperet hein, au-dessus de la tête de cette dame-là qui risque d'être transférée en Turquie pour une condamnation à perpétuité. Alors, en plus, pour...
Elle vit avec cette épée de Damoclès depuis 1998, sa première arrestation.
Oui, depuis une trentaine d'années, quand même, c'est pas rien. Quoi. Et donc, en plus, pour quelque chose où elle a été acquittée, parce qu'en fin de compte, on reviendra un petit peu sur l'historique de ce pays, la Turquie, et le pourquoi elle a été condamnée. C'est une dame qui est sociologue de formation. Elle a fait des travaux, un doctorat en sciences politiques et en sociologie. Donc, elle a étudié en Turquie tout ce qui est au niveau d'un point de vue sociologique, donc sciences humaines, hein, quelque chose de pas journalistique uniquement. Donc, elle a étudié différents sujets, dont les Turcs, les Kurdes, hein, et le Kurdistan, tout ce qui touche à cette région et aux Kurdes, c'est très sensible, même plus que ça. Donc, le fait d'avoir fait des travaux sur les Kurdes, elle a été emprisonnée, donc, on l'a condamnée pour ça, parce qu'il y a eu des attentats, enfin, comme il y a beaucoup en Turquie, beaucoup de problèmes comme ça, et donc, il y a eu des attentats à Istanbul, et à la capitale, et en plus, on a accusé d'avoir participé à ces attentats avec des morts, et donc avec des personnes qu'on a trouvées.
Et surtout un grave défaut, c'est d'avoir été contre Erdogan, quoi. Hein, dès que Erdogan, je le disais à des amis turcs, vous allez voir un air qui se conduit en dictateur. Malheureusement, les prédictions que j'avais formulées avec mes amis turcs sont réalisées. Alors, bien sûr, on se replie toujours derrière le contexte des Kurdes, hein. Et puis pour dénaturer les opposants. Alors, je dois, il y a quand même quelque chose de neuf par rapport à Erdogan, parce que il a même fait emprisonner le maire d'Istanbul.
Oui, il y a une grosse manifestation ce week-end.
Et oui, oui, parce que de toute façon, Erdogan, et je l'avais prédit avec des amis turcs. Je leur dis, arrêtez avec votre dictateur, là. Hein. Et puis, mais non, Michel, c'est pas un dictateur. Mais je lui dis, vous allez voir un petit peu. Ben oui, finalement, Erdogan s'est conduit en dictateur et intégriste en plus de ça. Il est obligé de composer avec certains partis quand même qui sont moins intégristes, mais c'est difficile. Ah, parce que ils pourchassent même en France, même en Allemagne, ils essayent de pourchasser les opposants d'Erdogan aujourd'hui. Il faut s'en méfier parce que souvent avec la complicité de la police française, il faut le dire bien fort. On n'est pas la presse de Bolloré ici. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se sachent, hein, vis-à-vis de. Et je suis prêt à en discuter avec des amis turcs. Il y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui d'être d'origine kurde, d'être dans l'opposition, etc. On le voit avec aujourd'hui le maire d'Istanbul, qui est pourtant élu au point de vue démocratique. Aujourd'hui, il est en prison parce que Erdogan ne supporte pas. C'est un dictateur qui ne supporte pas la contradiction.
En tout cas, cette dame-là, c'est une scientifique qui avait fait donc des études avec des Kurdes, entre autres, hein, parce qu'il y avait d'autres sujets qui sont sensibles aussi, hein, par exemple les homosexuels, etc. Et le fait d'avoir étudié sur des populations kurdes, le gouvernement lui demandait un petit peu les sources, c'est-à-dire un peu comme des journalistes, demander les personnes avec qui elle avait travaillé et elle n'a pas voulu. Donc pour cette raison-là, ma foi, on a cherché à l'accuser de ce qui s'était passé, donc d'un attentat avec des personnes qui l'ont dénoncé faussement, mais enfin ça a été ensuite acquitté. Parce que les personnes se sont rétractées, mais pour autant, la justice depuis 30 ans revient sur cette affaire-là, hein, qu'elle a été complice, en tout cas, d'attentats commandités par des Kurdes. Hein, comme c'est un sujet très sensible, il y a quand même plusieurs sujets. Hein, oui. Les Arméniens, le génocide arménien de 1915, c'est un sujet tabou. Hein, on refuse l'État turc depuis très longtemps. Dès qu'on parle de génocide arménien, c'est des problèmes de discorde. Et le Kurde, pareil, actuellement, le Kurdistan, avec ce qui se passe en Syrie, avec tout ça, c'est d'actualité. Donc, depuis 30 ans, cette dame-là, à la fois, il y a des procès, elle est acquittée, hein, par un tribunal turc, et à nouveau, on recommence, hein, il y a un procureur qui recommence à refaire un nouveau procès, et là, il y a son énième procès, depuis une trentaine d'années, et donc c'est en cours en 2026, c'est pour ça, et actuellement, donc elle travaille en France, c'est pour ça qu'elle est protégée avec la nationalité française, elle travaille dans une université à Nice, hein, où elle enseigne, enseignante, chercheur, en sociologie, et donc elle est protégée là aussi le fait que, elle a la nationalité française, donc elle ne peut pas être extradée facilement.
C'est plus compliqué, oui.
C'est plus compliqué, il faut que l'État français, quand même, qu'il y ait des négociations, donc c'est moins facile. Sinon, c'est sûr qu'elle aurait été extradée depuis longtemps. Donc c'est vraiment une chance pour elle d'avoir ça, et donc ça lui permet de pouvoir s'exprimer comme elle l'a fait à Épinal. Et en plus, Épinal, c'était sur un autre sujet qui est quand même très voisin. Hein, c'était le sujet de sa conférence, qui est un livre, un de ses premiers sujets de travail. Comment transforme-t-on un bébé en un assassin? Et ça, c'est un sujet qui est grave, mais qui n'est pas lié uniquement à la Turquie. Mais enfin, elle montrait plutôt en Turquie avec comment est-ce qu'un bébé peut finalement devenir un assassin, que ce soit dans l'armée ou autre. Ce n'est pas un militaire, mais c'est un militaire qui va faire des choses d'un assassin, quoi. Pas uniquement tuer un ennemi, non, c'est autre chose. Et toute cette progression, donc, elle est montrée Et évidemment, ça ne plaît pas du tout au régime, ce genre d'analyse. Pourtant, sociologique, en interviewant des militaires, des gens qui ont fait ça, et ensuite, voir un petit peu quel était le processus, quoi. C'est un processus qu'on peut retrouver partout, mais elle a fait une thèse et elle a fait un livre qu'elle présentait, donc ce travail-là, à Épinal. Et donc tout ça, ça fait qu'elle peut en parler et s'exprimer. Et même, c'est paradoxal, parce qu'elle nous disait qu'en Turquie, tous ces livres-là, qui sont pourtant gênants, ils se vendent. C'est bizarre. Oui. Elle est interdite. Ces sujets-là sont interdits, mais pour autant, ces livres, dans les librairies en Turquie, c'est le paradoxe de ce pays-là. Ils se vendent même bien. Mais en tout cas, elle ne peut pas s'exprimer. Et en France, par contre, elle peut vendre ses livres, mais aussi s'exprimer sur ces sujets-là, avec quand même beaucoup moins de risques, parce que là, au mois d'avril, elle devait passer en procès. Et évidemment, elle n'était pas présente physiquement. Et donc, on lui a reproché de ne pas être présente physiquement, mais en sachant très bien que la condamnation, c'était à perpétuité. Parce que la Turquie a enlevé quand même la peine de mort. Mais pour autant, il n'y a plus de la peine de mort.
Pour rentrer dans l'Europe,
éventuellement. Parce qu'il y a deux paradoxes dans ce pays-là. Elle fait à la fois membre de l'OTAN, pour des raisons stratégiques au niveau des États-Unis, à une époque où il y avait la guerre froide. Donc, c'était un pays quand même qui était proche de l'ex-URSS et de ses satellites. Donc, c'était intéressant d'avoir un pied à terre proche de tous ces pays-là, donc intégrer l'OTAN. Elle voulait aussi intégrer l'Europe. Là, par contre, ça a été quand même plus difficile, même encore jusqu'à maintenant. L'Europe a toujours eu réticence à l'intégrer. Alors, pour différentes raisons, on disait que ce n'était pas un pays européen, c'est un pays presque du Moyen-Orient, enfin, entre les deux. Et donc, ça a été repoussé jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que là, l'Europe, c'est à peu près à côté. Mais ils avaient fait des efforts, la Turquie, pour essayer, dont l'abandon de la peine de mort, etc., pour montrer un petit peu qu'ils faisaient un petit peu allégeance pour essayer de rentrer dans l'Europe. En tout cas, faire un dossier un petit peu plus propre. Voilà. Oui. Donc, un petit peu ces choses-là. Ce paradoxe de ce pays-là. Ce paradoxe.
Oui, c'est ça. Oui.
On reviendra un petit peu après une pause sur un peu l'histoire. Comment est-ce que la Turquie est actuellement comme ça avec Erdogan et d'autres? Comment est-ce que l'histoire fait qu'elle est comme ça? Mais aussi par rapport à nous, parce que toute cette histoire-là, avec ces régimes très durs actuellement, aucun pays, même européen, n'est à l'abri de ce genre de dérive très dure. Donc c'est intéressant pour nous aussi de prendre du recul sur ça, parce que on sait très bien que la peste brune est au pied de plein de pays, à la porte,
oui,
comme on
tout
dit.
À fait.
Donc il faut en prendre conscience. Ça ne se copie pas, mais...
L'Hongrie a échappé pour le moment.
C'est de façon différente.
Oui, voilà. Il y a l'histoire qui est différente, mais en tout cas, il y a quand même des mouvements dans le monde entier qui sont inquiétants.
Il y a des ressemblances.
Oui, voilà.
Partout.
Il y a quelques similitudes quand même qu'on peut voir.
Beaucoup de similitudes. Ouais.
Par des pays qui sont de plus en plus pénétrés par des mouvements d'extrême droite. Y compris en France, d'ailleurs.
Ah partout.
Partout.
On le voit.
C'est ça que c'est inquiétant.
Même en Europe. D'ailleurs, il y a eu des sanctions contre la Hongrie, à certains moments, parce qu'elle n'a pas appliqué quand même la réglementation, la démocratie européenne. Mais aujourd'hui, ça y est. Apparemment, la Hongrie réintègre quand même l'Europe.
C'est vrai comme on dit, il y a du souci à se faire. C'est entre tout ce
qui se passe,
tout ce qui se passe partout.
La montée en charge des partis d'extrême droite.
La vitesse à laquelle tout glisse peut inquiéter quand même. Ça glisse très vite. Ouais.
Pour l'instant, la structure de l'Europe nous protège un petit peu de ça. On le voit avec la Hongrie, on le voit avec l'Italie aussi, où malgré tout, il y a eu un changement d'attitude de la responsable en Italie, qui a changé un petit peu son attitude vis-à-vis de l'Europe et de ces politiques-là, vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de plein de choses, quoi. Donc il y a une certaine protection, entre guillemets, de l'Europe par rapport à tout ça. On le voit avec la Hongrie d'Orban, qui justement réintègre un petit peu le pôle européen pour des histoires déjà pécuniaires aussi, donc faut le reconnaître.
Mais aujourd'hui, par un régime politique différent aussi. Voilà. Heureusement.
On n'est jamais à l'abri quand même des fois de
dérapage, ça glisse vite, Et puis, on voit bien que par ces temps où ça explose partout, où la guerre explose dans tous les coins, on se rend compte que c'est vite fait de... Les gens ne savent plus trop où ils en sont. Hein.
Oui, parce qu'il faut quand même avoir conscience que l'Europe, elle nous a permis, depuis 45,
oui,
hein,
oui.
Donc quand même 80 ans, d'être en paix.
En hein. paix, ça, d'éviter ça, tout ça.
C'est justement. Vraiment, comme disait un ami ce week-end, c'est un anachronisme dans le monde entier.
D'ailleurs, c'était un petit peu le... C'était un petit peu
que
le...
C'est la seule région du monde où il y a une paix comme ça durable.
Je crois que c'est la pause, oui. C'est ça.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière Saint-Just comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Madame la République, hein, qui est toujours dans l'actualité un peu partout,
oui.
Dans le monde et en France surtout. Voilà. Donc là, on va présenter un petit peu l'historique, un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est actuellement comme ça en Turquie. Parce qu'il y a un retour un petit peu inquiétant, pas qu'en Turquie, mais un peu partout, on le voit en Russie, le retour des empires. Et il faut voir que la Turquie, l'histoire, c'est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ça date du XIIIe siècle, et l'Empire ottoman, donc avec des sultans très très connus, comme Soliman le Magnifique, etc.,
oui.
qui ont fait la grandeur de cette région, hein, parce que l'Empire ottoman, dans ces périodes-là, hein, 1300, 1500, etc., ça allait finalement toute la région du Hongrie, enfin toute cette grande zone-là, jusqu'à la Russie, mais ça allait jusqu'en Moyen-Orient, hein, la Syrie, toute la, ce qu'on appelle la Palestine, mais ça allait jusqu'en Tunisie, hein, une partie même de l'Égypte, la Tunisie. C'était impressionnant comme empire. C'était vraiment un empire dirigé par un sultan avec, bah, ma foi, un régime très, très subtil au niveau administration, quoi. C'était pas les armées qui géraient, mais enfin, c'était très, très important. Donc, ça a été jusque, finalement, fin 19e ou 19e, ça a commencé à se casser un peu, ce régime-là, hein, fin 19e. Et puis après, même début 20e, hein, donc tout début 20e, en 1908, et c'est là qu'il y a eu des gros problèmes, parce qu'ils avaient perdu déjà beaucoup de territoire, l'Empire ottoman. Et là, il y a eu des Turcs, qu'on appelle les jeunes Turcs, qui ont fait une révolution. Mais toujours sous la forme...
Atatürk.
Non, c'est après. Toujours sous la forme de suite au sultan, ils ont remplacé ça par une monarchie. Hein. Donc, en 1908, il y a eu une révolution sous forme d'une monarchie qui a tenu... Parce qu'en fait, en 1914, il y a eu la guerre mondiale, on le sait, mais la Turquie, donc de
c'est
ce régime-là...
avec les pays de l'Axe.
Eh bien, ils sont mis avec l'Allemagne, l'Autriche, hein, ma foi, ils ont choisi le mauvais côté, et en même temps, la Russie, parce que la Russie, avant la révolution bolchevique, elle était avec la France, hein, combattre l'Allemagne. Donc, ils se sont mis du côté, de l'Allemagne et de l'Autriche. Et puis, ce qui est arrivé, il y a eu des gros problèmes. Mais en même temps que c'était par rapport à la Russie, il y a eu les Arméniens. Alors, les Arméniens, on les a accusés d'être avec les Russes et puis finalement d'être contre l'État turc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par faire un génocide, il faut dire le mot. Hein, maintenant, on reconnaît, sauf la Turquie, mais tout le monde reconnaît au niveau international que c'était un génocide, c'est-à-dire que la population arménienne a été déporté et massacré. Massacré, il y a eu des centaines de milliers de morts arméniens qui ont été volontairement tués, hein, comme ça, comme il y a eu ensuite la Shoah pour les Juifs. Oui. C'est du même style. Parce qu'on les accusait d'avoir collaboré avec la Russie, donc contre l'État turc. Donc il y a eu ce grand génocide. Hein. Et puis après, en 1919, il y a eu la fin de la guerre avec l'Allemagne. Donc la Turquie était du mauvais côté, puisque elle a perdu. Et donc ça a eu des conséquences.
Elle a perdu énormément de territoire.
Et bien, comme l'Allemagne avait perdu, eux qui étaient avec, donc il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc ça a commencé finalement à ce qu'il y ait une nouvelle révolution, hein, donc avec Mustafa Kemal, puisqu'il y a eu à la fois la Turquie s'est retrouvée. Juste la Turquie d'actuellement, et tout le reste, ça a disparu. Tout ce qui était l'Empire ottoman, hein, qui avait été préservé un petit peu, c'était fini. Et donc, il y avait juste la Turquie qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un petit peu plus grand que la France, hein, 700 000 km². Donc, c'était juste cette région-là par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est là qu'intervient maintenant Mustafa Kemal, qui a fait une autre révolution, mais révolution complète au niveau politique, religieux, puisqu'il a instauré l'État laïque. C'est-à-dire en mettant de côté tout ce qui était religieux, hein, parce qu'il y avait quand même plusieurs religions, hein, orthodoxes, etc., hein, chrétiens, et puis musulmans, mais en les mettant de côté, c'est-à-dire qu'il n'avait plus droit de citer au niveau d'État.
Laïque.
Laïque. Hein, et en plus, occidentalisé, c'est-à-dire référence à l'Occident, hein, même par les habits, les interdictions. Oui. C'était aussi de la langue. Donc tout a été... Mais par contre, le turc. C'est-à-dire que tout ce qui était en dehors du turc, c'était exclu. Hein. Donc les Kurdes, etc., les Arméniens, n'en parlons pas. C'était fini pour eux. Donc c'était très, très rigide, hein, comme un régime, hein, très très fort par rapport à ça. Et ça a duré jusqu'à, pas longtemps, hein, mais la révolution de Kemal, c'était vraiment complet sur le code, tout était occidentalisé, hein, le code civil, tout ce qui était confrérie, tout ça, ça a été supprimé. L'alphabet latin, hein, c'était vraiment une révolution complète par rapport à là-bas. Donc tout ce qui était référence à l'islam et puis toute la culture de cette région-là, on supprime, on met de côté. Pour revenir finalement comme les pays occidentaux. C'était une grande volonté de Mustafa Kemal. Et puis après, c'est resté hein, jusque, bah, jusque finalement, bah, après la guerre, parce que c'est pareil, il y a eu la guerre de 40, etc. Hein, pas toujours facile. Ils ont voulu à la fois être dedans, sans être dedans, mais enfin, c'était compliqué, quoi. Et donc après, bah, ma foi, toutes ces affaires-là, eh bien, ça a amené bah, jusque dans les années 1960, où là, il y avait la guerre froide. Donc après la guerre de 40... 45, ben la guerre froide et donc le monde était coupé en deux. Hein. D'un côté, il y avait les États-Unis et puis ben, les pays européens de l'Ouest et puis ben, l'URSS et ses satellites. Et finalement, la Turquie ben, a intégré l'OTAN en 1960. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'était une pièce maîtresse des États-Unis, proche finalement de l'URSS et de ses satellites, donc au niveau militaire, etc. Ça, c'est le premier point. Puis, en fin de compte, après, ben, il y a eu d'autres sujets, comme le Kurdistan, qui est revenu là. Et pareil, on a classé tous ceux qui défendaient le Kurdistan, donc ben, de terroristes, hein, c'est toujours classique.
On
hein.
a refusé aux,
donc, il fallait pas parler
aux Kurdes un État.
Tout ce que, ben, oui, mais déjà, tout ce qui était langue, culture, etc., c'était interdit. Donc, voilà. Comme ça. Et puis après, tous ceux qui se réclamaient, donc il y a eu un mouvement un peu dur qui s'est mis en place à ce moment-là, hein, le PKK, et qui, mais évidemment,
avec un bras armé qui s'appelait PPK.
Voilà. Donc, il y a eu des répressions très fortes hein, dans ces pays-là. Bah, il y a eu jusqu'à 30 000 morts entre bah, les deux, parce que c'était quand même des régimes très durs. Donc, la mort était quand même importante. Donc, tout ça, ça a creusé des grandes divisions et des grandes choses au niveau même de l'État, hein, qui était très dur. Oui. Hein. Et finalement, jusqu'à bah, Erdogan, qui est actuellement en place, mais ça, il s'est mis en place en 2003. Donc, c'est des gens anciens, c'est pas nouveau.
Non, hein,
tous ces, et c'est finalement, Erdogan est revenu, un peu comme Poutine actuellement, comme quelqu'un qui a fait revenir bah, l'Empire ottoman, un peu, disons, la Turquie, oui. Un peu le prestige, comme Poutine, bah, pareil.
Oui, ça, ils veulent fallu, il a, voilà. Ils veulent récupérer.
Il a fallu pour ça aussi démanteler l'armée. À un moment donné, ah, parce que l'armée avait été la garante de la démocratie parlementaire, et il fallait démanteler l'armée à un bon moment.
Ah ben il y a eu
jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins aujourd'hui, ouais. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui se comporter en dictateur. Hein, et de faire taire l'opposition, on le voit aujourd'hui par rapport au maire d'Istanbul qui est aujourd'hui emprisonné.
C'est vrai que les militaires ont joué un rôle important de garant un petit peu
de garant de la démocratie.
De cet État après. Turc un petit peu ouvert, oui. Enfin pas ouvert, mais disons émancipé de tout ce qui était religieux, etc. Et puis garder une certaine forme qui avait été mise en place par Kemal. Donc oui. Il y a eu même un coup d'État qui a été initié avec des grandes répressions derrière hein, au niveau militaire.
Le temps des loulous, les fameux temps des loups gris. Oui. Hein, qui était fort heureusement, il s'est vu heurté à l'armée des forces d'extrême droite.
Je crois que nous sommes encore en pause musicale.
Femme pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe. Noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère. Mélangez-vous, mélangez-vous, quand toutes les peaux finiront par se ressembler. Mélangez-vous, mélangez-vous, un jour les hommes sauront même plus sur qui taper. Femme pleine de grâce, ouvrez vos bras aux hommes qu'on dit d'une autre race. Femme, changez la donne, quand tu auras plus qu'une seule couleur, ce sera la bonne. Mélangez-vous, mélangez-vous, comme dans un mot d'amour, les lettres de l'alphabet. Mélangez-vous, mélangez-vous, pour une couleur qui envoie plus personne au gibet. Femme pleine de grâce, à qui la liberté n'accorde aucune place. Va vers celui qui t'aime,
même si sur toi les tiens ont jeté l'anathème.
Mélangez-vous, mélangez-vous.
Peut-être qu'un jour il y aura partout la même couleur.
Mélangez-vous, mélangez-vous.
On ne saura plus qui sont les nôtres, qui sont les leurs. Femmes, soyez fécondes et par des cent mille que vos tailles soient rondes. Vos fils seront tous frères, contre personne ils ne partiront plus en guerre.
Mélangez-vous, mélangez-vous.
C'est de la haine que toutes les femmes vont nous sauver. Par elle que le racisme enfin sera délesté de sa tenace peau de chagrin. Femme pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe, noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère.
Mélangez-vous.
Après cette pause de Pierre Perret, Mélangez-vous.
Merci pour cette pause, Lou.
Voilà, et bien, pour en revenir à la Turquie, hein, et bien, ma foi, cette dame-là, par rapport à tous ces problèmes-là en Turquie, elle n'a pas été la seule, parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien en France, il y a peu d'émigrés turcs, mais par contre, l'Allemagne qui avait eu des liens donc en 14, on l'a vu tout à l'heure, et bien ma foi, finalement, actuellement, il y a une grosse communauté turque de 2 millions de personnes en oui. Allemagne. Alors, c'était même des sujets assez, assez épineux, hein, voilà, quelques années, hein, où Mme Merkel, on l'accusait finalement de favoriser cette émigration, mais en fin de compte, il y avait une affinité entre ces deux pays-là, entre la Turquie et puis l'Allemagne. Et puis finalement, l'Allemagne, Mme Merkel, elle voyait très bien que la population allemande de souche, elle diminuait. Et donc au niveau économique, il fallait bien trouver une solution. Et ça a été une des solutions, mais ça lui a posé d'énormes problèmes. Parce qu'en fin de compte, compenser la baisse de natalité par des immigrations, y compris turques, c'était mal vu par certains. C'était compliqué pour elle de justifier, de faire le grand écart. D'essayer de limiter l'immigration, hein, qui était un peu à la mode dans certains courants de beaucoup de pays, y compris les nôtres, et en même temps de pouvoir faire tourner la machine économique de son pays pour trouver de la main-d'œuvre, comme on l'a fait aussi en France et partout.
Oui.
Et les Turcs, il y a une affinité avec, entre les Turcs et puis l'Allemagne. Donc 2 millions, c'est quand même pas rien. Hein. C'est vrai que la Turquie, actuellement, c'est 88 millions d'habitants. Hein. Et puis l'Allemagne, c'est pareil, c'est un peu plus. Mais bon, c'est énorme, 2 millions sur cette population-là qui ont émigré dans ces pays-là. Donc ça a posé d'énormes problèmes, surtout actuellement, à ce sujet des migrations, qui est quand même très compliqué, en tout cas très épineux dans tous nos pays. Et donc de faire concilier l'économie, le respect des droits de l'homme, parce que finalement, ils sont partis de Turquie, c'est pas pour vivre mieux en Europe, non. C'est parce que comme Mme Selek,
ma foi,
j'étais menacée. Cette dame-là, il faut quand même voir qu'elle a été accusée depuis une trentaine d'années en Turquie pour quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il y a quand même eu 4 acquittements de par la justice turque, 4 acquittements. Et pour autant, même en 2026, 25 ans après, on continue à relancer un procès, un nouveau procès contre elle, mais déjà la peine est déjà faite.
C'est perpétuité. Quand on regarde bien au niveau, ils disent quand même qu'il a été établi par plusieurs experts que l'explosion pour laquelle elle était accusée, c'était une fuite de gaz.
Et ça a été dans les procès, ça a été bien expliqué.
Oui,
et
c'est prouvé en plus.
Les gens qui ont dénoncé cette dame-là, comme quoi elle avait été plus ou moins associée à cette explosion-là par des Kurdes, ils sont rétractés après. Ils ont dit que non, c'était par pression qu'on leur a fait ça, et ils sont rétractés. Et en plus, c'était démontré, c'était une conduite de gaz. Pour autant, mais on revient quand
on
même.
A, on a gardé l'accusation, on a gardé le...
Bah parce que cette dame-là avait travaillé avec les Kurdes, sujet tabou, et donc ça suffisait pour... Et au niveau maintenant, elle a une audience internationale, donc donner une mauvaise image de la Turquie par quelqu'un de respectable à l'extérieur, parce qu'elle est quand même reconnue dans le monde entier, c'est quelqu'un quand même qui a un doctorat qui l'a passé en France sur des sujets de sociologie, mais aussi de sciences politiques.
Hein, oui, et puis son père était avocat, sa mère était pharmacienne, sa sœur, pareil.
C'est quand même une famille très, respectable, très connue, je veux dire. Son père a été 4 ans et demi en prison en Turquie. Enfin bon, il y a quand même des... Et actuellement, elle a des distinctions un peu de partout, de par ses travaux et aussi de par ses ouvrages, ses écrits, etc. Donc elle est reconnue,
au
niveau mondial, et reconnue non pas comme terroriste, mais comme quelqu'un vraiment de scientifique, qui dénonce un petit peu ce qui... Enfin, pas qui dénonce, qui montre,
ce qui
se passe. C'est différent, ce n'est pas dénoncé.
Oui, non, elle ne dénonce pas.
Ouais. En sociologie, elle montre les choses qu'on ne veut pas voir.
Voilà.
Ça, c'est ça qui ne plaît pas.
Elle dit ce qu'on n'aimerait pas entendre.
Voilà, ce qu'on n'aime pas entendre. Et elle le montre par ses travaux scientifiques, parce que la sociologie, comme toutes ces sciences-là, c'est une science, comme les mathématiques et autres.
Sauf
que c'est une science humaine. Donc, mais pour autant, il y a une rigueur. Donc, elle ne juge pas. Elle montre des faits. Et après, on voit aux autres. Et ça ne plaît pas. Parce que quand il y a un jugement comme un journaliste, on peut dire non, il est tendancieux. Non, il y a des faits. Et ça, ça ne plaît pas aux gens. Parce qu'on ne peut pas. Les faits, ils sont comme ça. Quoi. C'est comme la pomme, quand elle tombe par terre, elle tombe.
Elle tombe.
Et là, c'est du même topo et ça ne plaît pas. Parce qu'on ne peut pas dire comme un journaliste, il prend parti. Non. C'est autre chose. Et c'est ça qui gêne. Et comme elle a, parce qu'actuellement, elle est chercheur. Enseignant-chercheur dans une université française, à Nice. Donc elle a quand même une envergure mondiale, quoi. Déjà en France, mais mondiale, et reconnue comme quelqu'un de sérieux, voilà. Et ça ne plaît pas, évidemment. C'est pour ça qu'on continue d'essayer de l'empêcher, parce que faut quand même... Pourquoi l'ACAT, cette association-là contre la torture, intervient? Parce qu'elle a été, au début, torturée, comme beaucoup de gens. La torture, on le sait en France, ça fait quand même changer. On peut faire avouer n'importe quoi sous la torture. Et elle, malgré la torture, parce qu'on lui demandait de citer, ses sources. Quand elle a enquêté auprès de la communauté kurde, on lui demandait des noms et des adresses. Et elle a dit non, même sous la torture. Dans ses premières enquêtes. Et ça, elle a dit non. Et ça, ça n'a pas plu non plus. Ça fait un peu comme Moulin en France avec, en 40. C'est vrai que des gens comme ça, qui, même sous la torture, ne disent pas les ressources, ça ne plaît pas. Et c'était tout à son honneur. Bon. Et donc ça, c'est important, parce que la torture est quand même quelque chose de très courant dans ces pays-là, comme un peu ailleurs, mais souvent dans ces pays-là, pour faire avouer quelque chose qu'on n'a pas fait pour autant. Et c'est ce qu'ils attendaient. Et comme ça n'a pas marché, et c'est pour ça qu'elle est partie de Turquie, un petit peu comme ça, et finalement qu'elle est restée en France ensuite pour passer sa thèse et puis continuer ses travaux.
Avec beaucoup de difficultés.
Oui, parce que de toute façon, même actuellement, elle est encore sous protection française, parce que sinon... donc cette dame-là, aussi comme poil à gratter, parce qu'elle a été au niveau... Donc c'est pour ça que toutes ces associations-là, dont la Ligue des droits de l'homme, c'est des sujets qui vraiment, c'est au centre de son travail, de la Ligue des droits de l'homme, elle a voulu défendre les femmes, parce que c'est vrai que dans cette société-là, turque, la place des femmes était quand même pas très bonne. Donc elle a créé des associations pour défendre les violences faites aux femmes, qui n'existaient pas. Et toutes ces minorités autres que les femmes, par exemple, les homosexuels, etc. Et puis les minorités ethniques, comme les Kurdes, etc. Donc tout ça, ça ne plaisait pas. Mais elle l'a fait de façon scientifique. Elle n'a pas juste dénoncé. Elle l'a fait avec des travaux sociologiques, principalement. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas réfuter, parce qu'il y a une méthodologie qui fait que, ma foi, il y a les faits et il n'y a pas l'interprétation est faite après. Mais au moins, il y a les faits qui sont là. Et on ne peut pas dire non, ce n'est pas vrai. Et donc, toutes ces minorités, entre guillemets, elle a fait beaucoup de travaux sur ça, mais qui lui a donné aussi une crédibilité internationale. Et en France, vraiment, c'est quelqu'un qui est reconnu et aussi par ses œuvres, ses livres. Hein, donc, elle en a fait un, donc, par exemple, là, celui-là, où elle est intervenue à Épinal, hein, comment transforme-t-on un bébé en un assassin ? Ah, quel curieux sujet. Mais finalement, elle a travaillé auprès de gens en Turquie. Donc, elle a pu quand même travailler à une époque en Turquie. Ça a été difficile avant qu'elle parte auprès de gens qui sont devenus... Comment est-ce que ce processus-là... Donc, elle a enquêté auprès de gens qui sont devenus des assassins, entre guillemets, hein, mais par le service militaire, etc. Comment est-ce que d'un bébé, ensuite, on en fait un petit soldat, mais un petit soldat, pas pour défendre, mais pour faire des saloperies, quoi. Très inenvisageable, entre guillemets. Mais comment ce processus-là, hein, au niveau psychologique et sociologique, peut s'établir ? Alors, elle l'a fait avec des gens en Turquie, hein, mais c'est transposable partout.
Partout.
Parce qu'on est étonné.
Il n'y a pas qu'en Turquie.
On est étonné. En France, on l'a vu. Hein, oui. Que ce soit pendant la guerre de 40-45. On l'a vu avec la guerre d'Algérie.
Oui.
Comment est-ce que des jeunes appelés allaient, pouvaient faire de la torture.
Pouvaient se transformer.
Tous les régimes militaristes.
Voilà. Donc, elle expliquait un petit peu cette transformation, finalement, d'un bébé. On commence par lui mettre un uniforme, on commence par... Et finalement, petit à petit, on arrive à ce qu'il obéisse, et comme un militaire doit le faire, on lui dit de faire ça, il ne se pose pas de questions. Il y va.
C'est ça, il y va.
C'est comme ça qu'en 14, il faut sortir des tranchées. Ah ben non, tu y vas. Et donc, cette transformation-là de l'enfant, de l'adolescent en personne comme ça, qui ne réfléchit pas, c'est ce qu'on demande. Mais ensuite, ça allait plus loin, parce que là, ces soldats-là, on leur demandait de sortir des tranchées. Mais ensuite, on pouvait le transformer en assassin. C'est-à-dire, un assassin, oui. Elle veut dire, par exemple, comme la torture qu'il y a eu en Algérie ou ailleurs, hein, comme en France ou autre, comment est-ce qu'une personne, un jeune comme ça, il se transforme pour torturer. Eh bien, il y a l'effet de groupe. C'est-à-dire qu'elle montre très bien que... et ça se voit même dans des bandes...
L'effet de hiérarchie,
dans les banlieues et autres. Il suffit qu'il y en ait un, par exemple, le viol, les tournantes, c'est ça. Et il y en a un qui fait quelque chose, et les autres, par mimétisme, et aussi par peur, des fois, de ne pas dire non, mais même des fois.
Par peur d'être différent.
Déjà différent. Mais après, c'est bien une normalité. Presque,
ça devient une
dans
normalité.
Le groupe. Oui. Et donc, voilà. C'est grave, cette normalité. Et on arrive à des choses comme ça.
Et on arrive
et donc,
à
c'est
ça,
son travail-là qu'elle a montré.
Mais c'est bien d'avoir fait la hiérarchie,
ça. Parce qu'on le voyait déjà militaire. Quand même pas mal à la télé quand il nous montrait ses enfants enrôlés avec
des enfants guerriers, soldats.
Les enfants guerriers.
Les enfants soldats en Afrique, c'est...
C'est vrai que là, déjà, on se posait beaucoup de questions.
Voilà.
Enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire. Les enfants de Gaza ont-ils un avenir? Sous les bombes jour et nuit, les enfants ne dorment plus, la terreur a envahi chaque instant de leur vie. Toi qui les condamnes à mort, comment peux-tu t'endormir? Un soldat, c'est bien plus fort qu'un enfant qui respire. Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire. Les enfants de Gaza ont-ils un avenir? Désespérés d'un massacre à bout portant, ils n'ont plus rien à manger que les herbes des champs. Quand les villes bombardées jettent un peuple dans les rues, c'est le rire des enfants qui nous manque le plus. Les enfants de Gaza, orphelins, les enfants de Gaza meurent de faim, dans leurs yeux dévastés, le soleil se déchire. Les enfants de Gaza ont-ils un avenir? Dans la guerre et dans le sang, dès le jour du premier cri, dans la haine des deux camps, c'est là qu'ils ont grandi. Ils réclament leurs parents, ils recherchent leurs amis. Rien ne peut ressusciter une enfance assassinée.
Et ma foi, suite à cette chanson de Laurent Grybowski, Les enfants de Gaza, hein, c'est un peu finalement suite.
Oui.
Dans ce sujet-là, les enfants de Gaza, eux, par contre, ils sont victimes, là, c'est différent. Là, mais bon, c'est quand même des enfants. Et ils sont victimes de la guerre des adultes. Et là, ce qu'on parlait avec Mme Selleck, c'est des enfants qui peuvent, comme des soldats, des enfants soldats hein, qu'on voit en Afrique ou ailleurs, hein, des enfants qui deviennent des criminels, hein,
oui,
sortis de l'enfance à peine, hein, à 10-15 ans. Ils ont des armes et ils se comportent de façon odieuse pour nous, mais pour eux,
c'est normal.
Ils sont embarqués, voilà.
C'est ça.
Donc c'est une normalité pour eux et c'est grave, c'est un peu ce que Mme Selleck voulait montrer.
Oui, en rebondissant sur les horreurs de la guerre et les enfants, j'ai vu ce week-end sur Instagram une vidéo qui tourne avec un petit garçon qui s'appelle Amro qui vit en Palestine. Et en fait, il y a un petit peu partout des bombes qui n'ont pas forcément explosé et tu vois cet enfant qui joue à côté de cette bombe, qui la touche et tout. Et c'est affreux en fait,
oui.
Le contraste entre l'innocence de l'enfant et les horreurs de la guerre. Enfin voilà, je rebondis juste sur ce que je viens de voir ce week-end sur Instagram.
Entre ce qu'est l'enfant quand il est tout petit et puis ce qu'il peut devenir après quand il est passé entre les mains de ces gens qui les formatent.
Exactement.
Qui les formatent.
Et leur innocence qui est corrompue en fait à cause des horreurs
commises
par les adultes.
Tout à fait.
Les enfants soldats.
Mais c'est grave parce que c'est grave parce que quand on regarde toutes ces guerres qu'il y a un peu partout en ce moment, quand on voit tous ces enfants qui ont été formatés pour faire aussi, parce qu'il y en a encore, il y en a aujourd'hui, hein, qui sont formatés pour devenir des bourreaux, je trouve que c'est quand même grave parce que tu sors pas d'un truc comme ça indemne, que tu puisses en sortir.
Puis ces enfants, ils deviennent des adultes et qui font la société de demain.
Demain,
donc,
tout
c'est
en fouille.
C'est vachement valable dans beaucoup de pays africains aujourd'hui.
Oui, oui, c'est les adultes de demain.
Et
qu'est-ce que ça va...
Et donc, quelle société ils vont faire avec les normes qu'ils ont eues dans leur enfance?
Oui, c'est ça.
Par exemple.
C'est ça.
Au Rwanda.
Parce qu'après, on peut mettre les règles, les lois, etc. Mais comment est-ce qu'on fait des lois de normalité,
hein,
de bien, de mal, quand on a vécu
quand
ça?
Quand on a vécu
parce
ça.
Parce que le bien et le mal est complètement faussé par ce biais-là. Donc, on le voit avec le Rwanda actuellement, avec le Congo qui mixe. Et bien, ma foi, les gens se comportent de façon comme avant, hein, comme étant jeunes. Et pour eux, il n'y a pas de...
C'est
pas
ça.
Mal, quoi. Le côté mal... Et biaisé par ce biais-là.
Oui.
Par ça.
Et quand on voit les militaires qui sont partis justement faire la guerre en Irak, en Iran, partout, le traumatisme qu'ils subissent et l'état dans lequel ils rentrent, le temps qu'il leur faut pour arriver à se remettre, ne serait-ce qu'un petit peu, hein, parce qu'ils ne se remettent jamais complètement. Donc, on peut supposer qu'eux sont partis quand même adultes. Hein, c'est des adultes qui partent en guerre. Donc, ces enfants qu'on colmate depuis tout petit et on les entraîne à être des machines à tuer, on peut se demander ce qu'il en adviendra plus tard, parce qu'ils ne redeviendront jamais les enfants qu'ils ont été, c'est pas possible.
Non, ou qui n'ont pas été, en fait.
Et qui n'ont pas été, qu'ils ont été peut-être jusqu'à l'âge de 12-13 ans.
Oui. C'est ça qui est grave, parce que ensuite, quand on fait un régime ensuite politique et qu'on met des lois derrière ça, mais les lois, c'est par rapport à des normes qu'on a.
Oui, tout
à fait. Elles peuvent être religieuses, elles peuvent être autres, mais il y a bien des définitions du bien et du mal qui ensuite donnent une loi avec aussi quel système pour agencer tout ça. Mmh. Et donc, c'est vrai, quand les repères par rapport à ça sont faux, hein, et ben, qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Et ça fait un peu comme quand il y a des gens qui sont otages ou avec Daesh, etc. Mm. Ben, le retour à la normalité d'autres, et ben, est quand même compliqué, quoi. Hein, c'est presque comme un drogué. Hein,
c'est ça.
Qu'on va enlever la drogue, et ben, ensuite, c'est plein d'incertitudes. Sauf que là, ce n'est pas une personne, c'est tout un groupe. Hein, et on voit les dérives qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'on met en place derrière ça ?
Et où est la normalité pour eux ?
Oui,
où est la normalité ?
Oui, parce qu'ils n'ont pas vu d'autre chose que ça. Hein. Mmh. Donc, à la rigueur, c'est inquiétant parce que c'est
C'est deux mondes qui s'affrontent.
Voilà.
Hein. Ça restera comme ça parce que c'est deux mondes qui s'affrontent. Le monde des jeunes qui n'ont pas été enrôlés et le monde de ces jeunes qui, eux, sont entrés avec l'armée,
et
ont fait un peu tout.
Ça, et bien, ma foi, on le voit actuellement, et bien, des aspects économiques hein, de territoire et autres qui se greffent là-dessus. Et on profite un petit peu de ces instabilités-là pour des fois, en plus, jouer parce que maintenant... ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y avait les États, hein, comme les empires, etc., qui avaient une puissance par rapport à des territoires et des populations. Mais maintenant, il y a d'autres formes économiques, hein, qui sont par exemple les gens de l'Internet, etc., hein, qui ont des puissances énormes au niveau monétaire. Et donc, ils peuvent ensuite aggraver la situation parce qu'eux, ils ont des ambitions autres. Hein, etc., c'est pas leur souci. Eux, c'est leur business et même la puissance, parce que leur business permet d'avoir une puissance au niveau mondial plus que des États même. Hein. Certaines personnes ont plus d'argent hein, que le PIB de certains pays.
Hein.
Donc, ils ont plus de puissance que des pays européens ou autres. Donc, ça se rajoute en plus à toutes ces incertitudes-là.
Les multinationales, par exemple.
C'est pas leur souci, finalement, la paix ou des choses comme ça.
Oui, tout à fait.
Ou toutes ces normalités. Donc, l'instabilité se rajoute par ça. Donc, tout ça s'entremêle. Et donc, derrière ça, eh ben, ça donne un avenir pour ces régions. Ces personnes aussi. C'est pour ça que la Leader Drone s'intéresse à ces gens-là. Parce que c'est compliqué, quoi, actuellement. Ça se rajoute à ce qu'il y avait à une époque.
C'est compliqué et ça ne s'arrête pas là.
Mais
quoi,
c'est bien
ça,
qu'il y ait des personnes quand même qui tirent la sonnette d'alarme.
Si bien, je voudrais citer des paroles de Lorenz, hein, puisqu'il avait été épargné du massacre du Rwanda. Il a dit, mais est-ce qu'on peut pardonner ça ? C'était le 25e anniversaire du génocide. Hein, on a fait plusieurs émissions à ce moment-là avec Lorenz.
On dit pardonner, c'est une chose, oublier, c'est
voilà,
autre chose.
Exactement.
En fait, je pense qu'il arrive un moment, les gens se persuadent que ce n'était pas eux, que c'était quelqu'un d'autre, en fait, pour pouvoir continuer à vivre. Tu ne vis pas avec les horreurs que tu as faites, en fait. Je crois qu'on a terminé, Lou, c'est
ça ? Voilà, ma foi. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci à toutes.